Hola les guys, bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de Rien à voir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la famille. Il n'y a pas très longtemps, puisqu'au moment où j'enregistre cet épisode, on est le 20 janvier, c'était Noël. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas fêté Noël. Et c'était totalement voulu et c'était génial. J'ai passé un super petit week-end de 3 jours et à côté de ça, j'avais pas mal de mes amis qui m'expliquaient que le retour en famille, c'était assez compliqué. Et je me suis dit que je pouvais peut-être faire un petit épisode par rapport à la famille. Bon, la famille, c'est forcément extrêmement personnel. C'est forcément extrêmement propre à soi. Mais bon, comme toujours, ce n'est que mon avis. Et je me dis que peut-être ça pourra, encore une fois, en aider certains d'entre vous de m'écouter raconter ma vie. Ou peut-être pas, mais c'est pas grave. Alors, pour commencer, je pense que je vais essayer de quand même vous résumer un petit peu ma vie, très très rapidement, pour que vous compreniez un petit peu le background. Donc, comme énormément de personnes, je n'ai pas eu une famille classique avec les deux parents, les frères et sœurs, les grands-parents, etc., etc. Mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans. Et en vrai, même avant ça, je les ai jamais vraiment connus ensemble parce que mon père faisait un travail qui faisait qu'il n'était jamais à la maison. Et donc, j'ai vraiment grandi avec ma mère et mes deux sœurs. Et ce qui se passe, c'est que quand j'avais 7 ans, ma mère a rencontré un homme qui est donc devenu mon beau-père. Et cet homme avait déjà 3 enfants. Et on s'est retrouvés à emménager tous ensemble dans une grande maison quand j'avais 10 ans. Donc là, vous allez me dire, ok Olga, une famille recomposée, jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Et je suis totalement d'accord. Le seul problème, c'est qu'en fait, ma mère a tout fait pour que ce soit un enfer. Elle me répétait tous les jours que tout le monde me détestait, que machin avait dit ça sur moi. Enfin, vraiment, le collège, tout simplement. Sauf que j'étais déjà au collège et qu'en plus, à côté de ça, à la maison, j'étais encore au collège avec ma mère qui me montait la tête et qui me persuadait que tout le monde me détestait. Et que qu'on se détestait tous entre nous, en fait. Donc, pas extraordinaire comme milieu familial. Et à côté de ça, vous pouvez vous dire, ok, bon, du côté de la mère, ça va pas forcément, mais je sais pas, elle a des sœurs, elle a des grands-parents, elle a son père. Sauf que pas vraiment. Mes grands-parents, mes cousins, etc., on n'a jamais été proches, parce que ce soit du côté de ma mère ou du côté de mon père, ils sont pas très familles. Et mes sœurs, ça dépendait un peu des moments de ma vie. Des fois, on était plus proches, des fois moins. Ça dépendait de qui, etc., etc. Mais globalement, j'étais quand même... Enfin, en tout cas, je me sentais extrêmement seule et extrêmement mal. Et puis, à mes 15 ans, mon père est réapparu dans ma vie parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait des enfants et que globalement... ouais, je sais pas. Enfin, il s'est passé des choses de son côté qui ont fait qu'il est réapparu. Et à la fois, c'était cool d'enfin... connaître mon père, mais d'un autre côté, c'était encore plus un enfer parce que ma mère a encore plus pété un câble dans sa tête et elle a encore plus fait en sorte que tout soit un enfer, c'est-à-dire que du coup, déjà que j'avais grandi avec ma mère qui me répétait sans cesse que mon père nous avait abandonné et qu'il ne nous aimait pas, et là, c'était devenu « il ne vous aime pas, il vous a abandonné et en plus maintenant, il vous manipule ». Super. Donc... tout ça a fait que, arrivé à mes 15-16 ans, j'avais un peu cette image de ma mère... Alors, je vais vraiment prendre des exemples pour vous faire une métaphore. Je voyais un peu ma mère comme l'extrême gauche et mon père comme l'extrême droite, ou l'inverse. D'ailleurs, c'est pas du tout pour dire qu'il y en a un qui était genre plus comme ci et l'autre plus comme ça. Mais je voyais vraiment les deux comme des extrêmes et moi au milieu à me dire « il faut que j'aille ni vers l'un ni vers l'autre parce que les deux sont fous en fait ». Donc je grandis un peu en mode, bon, bah, alors la famille, on oublie. L'idée même de famille, on oublie. Et en plus, j'avais pas vraiment de parents et pas vraiment de repères parentaux, fiables, en tout cas. Et ce qui se passe, c'est que à mes 17 ans, je me rends compte que concrètement, 90% de mon mal-être vient de ma mère. Et à ce moment-là, je me dis... que soit je me tue, soit je la supprime de ma vie. Bien évidemment, je n'ai jamais voulu tuer ma mère, of course. Et donc, j'ai 17 ans, et le problème, c'est que ma mère est la seule personne qui m'aide financièrement, et je sais que je vais pas pouvoir la supprimer comme ça de ma vie et qu'il va falloir que j'attende d'avoir, en l'occurrence, 23 ans, mon premier CDI pour lui dire ciao. Donc à mes 23 ans, je vais chez ma mère, je récupère une dernière fois les quelques affaires qui sont importantes pour moi. Et bon, elle le sait pas, hein, mais c'est la dernière fois que je vais lui parler de toute ma vie. Et donc déjà, je pense qu'on peut s'arrêter une seconde là-dessus. Parce que je sais que cet acte, pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose d'horrible. Le fait d'arrêter de parler à un membre de sa famille. Je sais que c'est hyper mal vu, parce que en fait, la famille, c'est quand même assez tabou. Et moi, dans les années qui ont suivi cette décision, de temps en temps, bah normal, on me demandait qu'est-ce que font tes parents, où est-ce qu'ils sont, des choses comme ça. Et quand je leur disais que je parlais plus à ma mère, alors déjà, la première réaction, c'était un peu en mode « Ah, tu lui parles plus, mais c'est éphémère. » Pas éphémère, c'est temporaire. Et j'étais en mode « Ah non, 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 vraiment pas. Je ne lui parlerai plus jamais de ma vie, elle ne fait pas partie de ma vie, tout simplement. » Et là, on allait me dire « Mais quand même, c'est ta mère !» Et moi, bon, ça dépendait. Si j'étais patiente et bien lunée, j'allais tout simplement expliquer gentiment, mais sûrement, que ce n'est pas une raison pour continuer de lui parler. Si j'étais pas forcément patiente et que la personne en face voulait pas comprendre, j'utilisais cette comparaison, qui est une comparaison qui me semble valable, qui est si tu rencontres quelqu'un qui t'explique qu'il ne parle plus à sa mère ou à son père parce qu'il s'est fait violer par l'un d'entre eux, est-ce que tu vas lui dire « Oui, mais quand même, c'est ton père, c'est ta mère, donc tu devrais garder contact avec eux ?» Je pense que non. Je pense que c'est assez clair pour la plupart d'entre nous que quand un enfant se fait violer par son père ou sa mère, ou qui se fait du... Enfin, je dis viol parce que c'est vraiment, j'ai envie de dire, la pire chose, mais qui se fait abuser, en fait, ou qui juste se fait maltraiter, ou qui juste, oui, souffre de cette relation, je pense qu'il a absolument tous les droits et que c'est normal de dire que ce parent ne fait plus partie de sa vie, en fait. Et moi, pour le coup, bah, je me suis pas fait violer. Est-ce que je devrais parler avec autant de détails? Je ne sais pas. Non, je rassure tout le monde, je ne me suis pas faite violer. Mais ma mère est une personne extrêmement toxique et dangereuse. Et elle m'a abusée émotionnellement, elle m'a extrêmement manipulée. Et je pense que je suis totalement dans mon bon droit de dire « je ne veux plus parler à ma mère ». Et donc là-dessus, vraiment, j'ai envie qu'on s'arrête deux secondes et que si vous qui m'écoutez... vous vivez une situation un peu du genre avec n'importe qui de votre famille, ou pas de votre famille d'ailleurs, mais comme on parle de la famille dans ce podcast, je vais plutôt m'orienter là-dessus. Une situation où la personne en face ne vous fait pas du bien et n'a pas forcément des bonnes intentions, et que vous ressentez que vous ne pouvez pas être vous-même avec cette personne et que vous vous êtes pas juste bien, bah en fait, c'est suffisant pour décider de ne plus avoir cette personne dans votre vie, peu importe qui c'est. Et je pense que... si c'est aussi tabou de supprimer quelqu'un de sa famille, de sa vie, c'est parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on nous encourage à faire. C'est-à-dire que depuis qu'on est tout petit, on nous apprend qu'il faut obéir et qu'il faut aimer ses parents, ses grands-parents, sa famille. Et pourquoi est-ce qu'on nous apprend ça ? Parce que c'est beaucoup plus simple comme ça. Un enfant, ça doit obéir. Et qui dit un enfant qui obéit sagement, sans trop se poser de questions, dit qu'ensuite... dans la société, bah cette personne sera quand même plus à même d'accepter la hiérarchie sans trop se poser de questions. Et là, vous allez vous dire, Olga, tu pars peut-être un peu dans tous les sens, mais je pense que vraiment c'est lié. Ce truc de la famille, c'est tabou, on n'y touche pas, mais bien sûr qu'on n'y touche pas, parce qu'en fait, c'est hyper facile ensuite d'avoir une société très ordonnée. Et ça me fait penser à des cultures comme le Japon ou la Chine où la famille est extrêmement importante et surtout le respect des parents, le respect de la hiérarchie est extrêmement importante. Et ça fait ensuite qu'on a des cultures extrêmement respectueuses. Et je suis pas en train de dire que c'est bien ou que c'est mal. Je suis juste en train de dire que ces cultures où on respecte énormément la hiérarchie, bah c'est des cultures qui marchent très bien dans le domaine du travail, qui marche très bien dans le domaine, on va dire, de l'harmonie générale, mais c'est pas des cultures très individualistes. Bon, ça, j'apprends ça à personne, hein, que la Chine, c'est pas une culture individualiste, merci Olga. Ou en tout cas, des cultures où on va apprendre à s'écouter soi-même et à écouter ses propres besoins avant celui de la communauté ou du groupe ou de ce que vous voulez. Donc, forcément... que si un jour vous décidez d'arrêter de parler à quelqu'un de votre famille, vous allez avoir cette petite voix en vous qui va vous dire « c'est pas bien ». Parce que c'est ce qu'on nous dit depuis le début de notre vie, en tout cas globalement. Hein, quand je dis « on », c'est vraiment un truc très global. Il y a sûrement des familles où c'est différent. Mais en tout cas, globalement, on nous explique qu'il faut respecter et parler et se forcer à aller, j'en sais rien, aux réunions le dimanche. Il faut se forcer à aller à Noël. Il faut. Je pense que si vous m'écoutez depuis le début des podcasts, vous savez que moi, les « il faut », je m'en bats les couilles. Franchement, moi, la seule chose que je vous conseille de faire dans votre vie, c'est de vous écouter vous. Et en fait, la très bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où vous êtes capable de dire non à votre famille ou à un membre de votre famille et de juste faire passer vos besoins et votre bien-être avant tout, à partir de ce moment-là, ça veut dire que dans toutes les autres sphères de votre vie, vous allez être aussi capable de poser ces limites, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec votre patron, peu importe le contexte, si vous savez que vous êtes capable de vous faire passer avant tout, ça marchera dans tous les pans de votre vie. Et ça peut paraître extrêmement égoïste comme manière de réfléchir, mais moi je ne pense pas que l'égoïsme soit une mauvaise chose, mais après, c'est peut-être l'objet d'un autre podcast, j'en sais rien. Si on revient à la famille, j'ai d'autres petites choses que j'aimerais vous dire. Ce qui se passe, c'est que, comme je vous expliquais, mon père est revenu dans ma vie quand j'avais 15 ans. Et à partir de ce moment-là, mon cocon familial, c'est devenu mon père, ma petite sœur et moi. Et comme jusqu'ici, j'avais pas vraiment de famille, à partir du moment où on a créé ce cocon avec mon père et ma sœur, là, il y a eu toute une période de ma vie où j'ai vraiment tout donné pour qu'on soit enfin une famille. Et j'ai beaucoup, beaucoup donné. Et dans ma tête, c'était mon père et ma sœur, ils passent avant tout le monde, je pourrais mourir pour eux. Si demain, je devais choisir entre moi et ma sœur, ce serait elle avant moi. Et en retour, je ne recevais pas forcément l'amour que j'aurais aimé recevoir, surtout du côté de ma sœur. Ma petite sœur, pendant pas mal de temps, et jusqu'à très récemment, elle était un peu en mode... Ça faisait beaucoup pour elle, je pense. Et du coup, c'était toujours moi qui allais vers elle. C'était toujours moi qui allais l'appeler. C'était toujours moi qui allais essayer d'organiser des choses avec elle, avec mon père, avec même ma grand-mère. J'avais vraiment ce truc de « Allez les gars, on est ensemble, on organise des choses. » Et en fait, je me donnais toujours à fond. À Noël, je me donnais toujours à fond. Je faisais plein de cadeaux alors qu'on n'était que trois péquenots à se regarder dans le blanc des yeux. Donc forcément, il n'y avait pas beaucoup de cadeaux sous le sapin. Mais moi, j'étais à fond. Et en fait, elle, ça l'a étouffée. Et du coup, elle était assez distante, et en fait elle m'a tout simplement, on va utiliser les termes, rejetée. Et donc, je me suis sentie rejetée pendant des années et des années, et je me suis remise énormément en question. Et ça voulait dire que si ma petite sœur, il y avait un truc qu'elle allait me reprocher, si je reprends l'exemple de Noël, elle allait me dire vraiment, le gars, tu es too much. Et du coup, pendant des années, j'osais plus exprimer ce côté en moi qui est très « on va faire les choses en grand, on va décorer à fond, etc. » Et dès qu'elle me disait un truc, si elle allait me dire « t'es verte », j'étais en mode « oh putain, je suis verte ». Si elle allait me dire « t'es rouge », j'étais en mode « oh putain, je suis rouge ». Et puis un jour, il s'est passé que ma petite sœur m'a reproché quelque chose. Et en fait, j'en ai parlé à mon père et mon père m'a dit « non mais laisse tomber, ce que tu as fait n'est pas mal du tout ». Et là, en fait, je me suis rendu compte que je me remettais tout le temps énormément en question, d'autant plus pour les gens que j'aimais. Et la deuxième chose que j'aimerais retenir de ma relation à la famille, c'est cette manière qu'on a, sous prétexte qu'on a des gens qui sont très importants pour nous, des fois on va avoir tendance à se remettre beaucoup, beaucoup, beaucoup trop en question. C'est pas parce que quelqu'un nous aime que ce qu'il dit, on doit le prendre pour argent comptant. Je sais pas pourquoi j'ai cette expression dans la tête. Et c'est vrai que, encore une autre leçon que j'ai appris. En vrai, ça revient un peu au même. En vrai, Olga, t'es en train de te radoter. En vrai, poser ses limites et ne pas se remettre toujours en question, ça revient un peu au même. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment les deux big trucs sur lesquels je travaille en ce moment et je travaille depuis ces derniers mois. C'est le fait de ne pas toujours se remettre en question. Et le fait de juste écouter et de dire « c'est sa vérité, mais c'est pas la vérité absolue. Pour elle, je suis too much, mais ça veut pas dire que je suis too much tout le temps. » Et aussi, de ne pas forcément donner autant d'amour aux autres. Et là, vraiment, vous allez vous dire, mais super, Olga, ton podcast, il nous dit quoi ? Il nous dit de renvoyer chez les autres, de poser ses limites, de couper les gens et de pas donner d'amour. Non, pas du tout. Je dis pas de ne pas donner d'amour aux autres. Moi, je suis la première à donner de l'amour aux autres. Je suis une boule d'amour, je suis cancer. Désolée, je le rappelle à chaque épisode. Mais je ne fais que ça, c'est très naturel en moi. C'est même peut-être trop naturel, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que avant de donner tout son amour aux autres, bah faut se donner à soi. Pour terminer là-dessus, je pense que je peux vous parler d'un moment de ma vie où ça a été un peu flagrant, qui est ma dépression. Bon, j'en parle à tous les épisodes. Est-ce que je dois encore le préciser ? J'ai été très très mal pendant très très longtemps et j'ai eu un pic de ma dépression quand j'avais à peu près 25 ans. Et à ce moment-là, la seule solution que j'avais, c'était de me tuer. Et la seule raison pour laquelle je ne le faisais pas, c'était pour mon père et ma sœur. Parce que je me disais qu'il ne survivrait pas à ça. Bon, ma petite sœur, pas trop. Hein. Ma petite sœur, j'avais compris qu'elle allait bien survivre sans moi. Mais mon père, en tout cas, j'avais vraiment mon père en tête et de me dire, je ne peux pas me tuer, je dois vivre pour lui. Et ce qui se passe, c'est que il y a eu un jour où je lui ai envoyé un mail où je lui disais, oh là papa, je vais pas très bien. Et si je me suis pas encore tuée, c'est juste pour toi. Et là, moi, je m'attendais à ce que mon père vienne et qu'il me sauve. Et il se trouve que mon père a répondu, oh ça va. La vie est difficile pour tout le monde, Olga, bouge-toi le cul, grosso modo. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que je ne m'aimais pas et qu'en fait, la seule raison pour laquelle je voulais vivre, c'était parce que j'aimais mon père et que j'aimais ma sœur et que je voulais vivre pour eux. Et là, on revient toujours à la même chose. On ne vit pas pour les autres. On ne vit pas parce qu'on aime les autres. On vit pour soi et on vit parce qu'on s'aime. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que j'ai voulu trop aimer mon père et ma sœur parce que au final, je pense qu'inconsciemment, j'attendais aussi beaucoup d'amour de leur part en retour et que cet amour, en tout cas sous la forme dont j'en avais besoin ou dont j'en avais envie, il n'est pas venu. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, en fait, Olga, c'est toi qui vas te donner cet amour. Et aujourd'hui, j'ai une relation avec ma petite sœur qui est super. J'ai arrêté de lui donner trop d'amour, j'ai arrêté de courir après elle, j'ai arrêté d'être étouffante. Elle a pris son temps, elle a vécu sa vie, parce qu'il ne faut pas aussi oublier qu'on est tous humains et qu'une famille, c'est avant tout des humains qui vivent des choses, qui grandissent, qui évoluent à leur manière. Et des fois, les gens, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de temps pour mieux revenir à nous. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Au bout d'un moment, j'ai lâché prise et j'ai dit « Ok, et tu sais quoi, tu veux pas de moi ? C'est pas grave, tant pis. » Bon. Je pense que après tout ce que je viens de vous raconter, vous devez vous dire que vraiment, je suis une personne reclue, qui ne parle à personne, qui ne parle pas à sa famille, qui me coupe des autres, qui pense qu'à ma gueule. J'ai envie de dire oui et non. Mais c'est vrai qu'il y a quelques temps, j'ai commencé à me poser la question de est-ce que moi, du coup, dans le futur, j'ai envie d'une famille ou pas ? Pendant extrêmement longtemps, c'était pas une question que je me posais parce qu'il était absolument hors de question pour moi d'être mère. Pour énormément de raisons. Franchement, on va pas se mentir, il y a énormément de raisons qui sont des raisons totalement écologiques, qui sont liées au fait que je me vois absolument pas mettre un enfant dans un monde qui, dans 50 ans, ne ressemblera pas du tout au monde qu'on connaît actuellement, qui même dans 25 ans ne ressemblera pas du tout au monde qu'on connaît actuellement. Mais bon, pour ça, je vous laisse aller écouter mon podcast sur l'éco-anxiété. J'ai pas envie de parler de ça maintenant, c'est pas trop le sujet. Mais il y avait pas que ça. Il y a aussi le fait que je sois une personne vraiment genre hyper indépendante et surtout genre j'aime trop être seule. Mais même sans parler de ça, j'avais encore autre chose qui était que dans ma petite tête, je me disais que je pouvais pas être mère. Parce que le mot mère est encore, au moment où je vous parle, extrêmement connoté genre Quand on me dit le mot mère, c'est vraiment tout ce que je rejette, en fait. C'est tout ce que je ne veux pas être. Et je pense que le tout dernier point que j'aimerais faire dans cet épisode, c'est qu'on n'est pas ce que nos parents étaient. Et c'est pas parce que pendant des années et des années, dans une famille, il y a eu des patterns, des schémas qui se sont répétés. Je vais dire des trucs horribles, hein, mais je vais penser par exemple à l'inceste. Je pense aussi à l'alcoolisme, à la dépression, à des choses comme ça. On a un peu ce truc de « c'est héréditaire ». Et si pendant des années, on nous a tapé sur la gueule, de père en fils, ça va se transmettre, de père en fils, on va se taper sur la gueule, de père en fils, on va être alcoolique, de mère en fille, on va être comme ci, etc. etc. Moi, dans ma famille, il n'y a pas forcément de problème d'alcoolisme, il n'y a pas forcément de problème d'inceste, Dieu merci, hein. Mais dans ma famille, ce qui se transmet de père en fils et de mère en fille, que ce soit du côté de ma mère ou du côté de mon père, c'est la haine. C'est la haine de soi, avant tout, mais du coup, la haine des autres aussi. Et je me souviens de mon père, il n'y a pas très longtemps, qui me dit que, en fait, Olga, tu fais partie d'une lignée, et quoi qu'il arrive, ça fait partie de toi. Et en fait, ce qui se passe, et j'ai envie de pleurer quand je le dis, c'est que moi, mais moi, je suis tout sauf ça. non seulement je ne suis pas haineuse, mais je connais très peu tout ce qui va être colère, tout ce qui va être... Je ne sais pas des choses qui sont en moi. Et ce qui se passe, c'est que quand mon père il me dit quelque chose comme ça, le jour où il m'a commencé à me parler de lignée, de machin et tout, j'ai eu ce truc de me dire « mais va te faire foutre ». C'est pas vrai. Les gars, c'est pas vrai. On nous fait croire qu'on est dans une lignée et que, quoi qu'il arrive, il y a des choses dont on ne peut pas se dépatouiller. Et là, j'ai envie de dire, vous avez deux possibilités. Soit vous vous dites « ok, et ben alors je serai comme ça ». Moi, mon père est alcoolique, bon bah ben moi aussi je serai alcoolique. Soit vous vous dites « bon bah ben, je vais aller voir une psy, hein, ou un psy ». Et en fait, je pense que le travail des psys, c'est essentiellement, non pas juste faire un travail sur nous, mais c'est limite enlever tous les traumas de toute la famille qui se sont légués de génération en génération. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que je sais très bien que si jamais je décide un jour d'être mère, j'ai vraiment plus de doute sur le fait que, alors je serai pas parfaite, mais je ne serai pas du tout comme ma mère. En fait, j'ai plus peur d'avoir des enfants par peur de continuer à transmettre ce poison qui se transmet de génération en génération. J'ai plus peur. Parce que à partir du moment où on fait le travail et on retire la chose de soi, ben on ne transmet plus. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. Comme toujours, je ne suis pas vraiment sûre qu'il ait servi à grand chose. Mais écoutez, je suis là, j'essaye. En tout cas, merci pour vos retours par rapport au dernier épisode, pour celles et ceux qui m'en ont fait. Ça m'aide énormément à juste à me dire que voilà, que ce que je fais, ça parle et tout, ça m'aide. Ça m'aide, ça me fait trop plaisir et ça me donne très envie de continuer. Donc, merci. N'hésitez pas, comme toujours, à me donner des idées de thèmes. Je serais ravie de pouvoir faire des épisodes sur des idées que vous me donnez parce qu'au moins, je me dirais, au moins, ça parlera à quelqu'un. Et si jamais vous voulez, vous pouvez m'envoyer un message sur l'Instagram du podcast qui est @rienavoirpodcast, tout attaché. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Grosso modo, la conclusion est toujours la même. Aimez-vous. C'est très dur, mais aimez-vous. C'est la base. Et n'hésitez pas à poser vos limites et n'hésitez pas à aller voir un psy ou une psy si ce n'est pas déjà fait parce que moi, ça m'a changé la vie. Voilà. Je vous fais des bisous et on se retrouve dans 2 semaines. Ciao !